Shalom, chaverim. Bonjour, frères et sœurs. Je sais bien que vous vous attendiez à voir Olivier, mais il a eu un empêchement et il m'a demandé de le remplacer. Je me présente. Je m'appelle Obed. Je suis né à Bethléem, sur le territoire de la tribu de Juda, en Israël. Il y a un peu plus de 3000 ans. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de moi, mais je crois que vous connaissez mes parents. Et à coup sûr, vous connaissez mon petit-fils. Mais j'en parlerai plus tard. On m'a demandé de vous raconter l'histoire de mes parents et c'est ce que je voudrais faire ce matin. Mon histoire... Comment dire ? Elle commence mal. Très, très mal. Mon grand-père, qui s'appelait Elimelech, ce qui veut dire « mon Dieu est roi », il habitait lui aussi à Bethléem. Bethléem, c'est une région très, très fertile d'Israël. Et son nom l'indique. Chez nous, on dit « Beit Lechem », « Beit » voulant dire la maison, et « Lechem », c'est le pain. C'est la maison du pain. Et pourquoi on l'appelait comme ça ? Parce qu'il y avait du blé en abondance. C'était l'époque où mon pays était gouverné par des gens qu'on appelait les juges. Et c'était aussi une époque où il n'y avait pas encore de roi. Et où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous savez, quand chacun fait ce qui lui semble bon, ce n'est pas très bon. Et il faut dire que Dieu nous punissait régulièrement de notre désobéissance. Alors, très souvent, il nous envoyait des armées ennemies, des envahisseurs qui venaient au pays, mais parfois aussi, il déclenchait des catastrophes naturelles, comme des famines. Et c'est ce qui est arrivé, justement, à l'époque de mon grand-père. Et il a cru bon d'aller s'installer ailleurs, en Moab. C'était des ennemis d'Israël. C'était des gens qui avaient d'autres divinités. Et entre nous, je ne crois pas que c'était une idée géniale que quelqu'un qui s'appelle « Mon Dieu est roi » aille s'installer dans un pays où d'autres dieux règnent. En tout cas, il n'a pas eu l'occasion d'en revenir parce qu'il est mort au pays. Vous imaginez la catastrophe que c'était pour ma grand-mère de se retrouver toute seule avec ses deux gamins, Mahlon, l'un, Kilion, l'autre. Donc, toute seule avec ses enfants, en territoire ennemi, totalement vulnérable, sans mari, sans protection. Mais elle ne s'est pas laissée abattre pour autant, et elle a réussi à marier ses deux fils avec des filles du pays. Mahlon, il a épousé une certaine Ruth, c'est ma mère, et Kilion, une fille qui s'appelait Orpa. Des filles très bien. Et comme un malheur ne vient jamais tout seul, les deux garçons sont morts aussi. Je ne suis pas sûr que vous puissiez comprendre ce que ça voulait dire pour Naomi et ses deux belles filles, ce qui leur arrivait là, de se retrouver sans protection aucune par des hommes. Vous savez, dans cette société, une femme ne valait pas grand-chose. Et si perdre son mari était une catastrophe, perdre son mari et tous ses descendants mâles, c'était la fin. C'était la fin. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, Dieu est intervenu en faveur de son peuple, Israël, et la famine a pris fin. Et ma grand-mère décide donc de rentrer au pays. Elle aimait beaucoup ses belles-filles, mais elle sait que la seule chance qu'elles ont de mener une vie tant soit peu normale, c'est de retrouver un mari. Et donc, le cœur lourd, elle décide de faire la chose raisonnable, à savoir de leur demander de partir dans leur famille, en espérant que peut-être un homme veuille les épouser. C'est la seule chance qui leur reste, la seule et unique chance. Et il faut dire qu'elle est bien mince, parce que ce sont des veuves, et qui plus est, des femmes qui étaient mariées avec des hommes pendant des années et qui n'avaient pas eu d'enfants. Donc on pouvait craindre qu'elles étaient stériles. Alors des veuves potentiellement stériles, je ne vous dis pas. Pour les gens du pays, c'était de la marchandise avariée. Pas sûr que quelqu'un veuille épouser une femme comme ça. Mais, enfin, peut-être que si. En tout cas, c'était leur seule et unique chance. Et donc, Naomi a fait comprendre à Ruth et à Orpa qu'il fallait partir. Et c'était pas facile, mais Orpa a fini par le faire. C'était le choix de la raison, vous l'avez compris. Et par les larmes aux yeux. Ruth, par contre, elle dit quelque chose d'étonnant. Ne me demande pas, dit-elle, de te quitter et de me détourner de toi, car là où tu iras, j'irai. Et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il m'ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui nous sépare, toi et moi. Voyez-vous, Ruth, au contact de cette famille israélite, elle avait appris à connaître le Dieu d'Israël, qu'elle mentionne. Elle ne veut pas retourner aux divinités de Moab, ces divinités qui exigeaient, par exemple, des sacrifices d'enfants. Elle a connu le Dieu d'Israël et elle compte chercher son bonheur sous ses ailes, en lui restant fidèle. Et, vous avez vu, elle se maudit, au cas où elle abandonnerait sa belle-mère, Naomi. Donc Naomi, face à ça, elle finit par comprendre que Ruth ne retournera pas chez ses parents. Et c'est comme ça qu'elles partent toutes les deux pour Bethléem. C'était dur pour Naomi de rentrer. Et en arrivant, les gens qui l'avaient connue, quand elle était partie 10 années auparavant, les gens qui l'avaient connue, ils disent, mais quoi ça, c'est Naomi, hein? Ils la reconnaissent à peine. Et face aux questions des femmes de la ville, elle crache toute son amertume. Elle dit, je suis partie pleine, mais le Seigneur m'a fait revenir vide, et d'autres joyeusetés comme ça. Ce qu'il y arrive, c'est la faute à Dieu. Et dans son chagrin, elle oublie complètement que tout ça, c'est pas vrai. Elle n'est pas partie pleine. Elle est partie dans une famine, et surtout, elle n'est pas revenue vide, parce qu'elle a dans ses bagages une jeune femme, Ruth, et vous allez voir que c'est à travers Ruth que Dieu va richement bénir Naomi. Mais ça, il ne peut pas le voir pour l'instant. Elle est complètement enfoncée dans sa douleur et peut-être dans sa pitié d'elle-même. Et vous imaginez que ce n'était pas facile non plus pour Ruth d'entendre ça. Elle vient de tout abandonner, le seul espoir qui lui restait de trouver un homme. pour se lier de façon définitive à une vieille femme qui lui dit « Mais je suis vide, je n'ai rien. » Mais il en faut plus pour abattre une rute. Et dès le lendemain, elle se met au travail. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle fait ce que font les pauvres, les veuves et les orphelins. Elle va glaner dans les champs. Parce que c'est le temps de la moisson, on moissonne, et les pauvres avaient le droit, en tout cas en principe, d'aller glaner ce que laissaient les moissonneurs dans les champs. Vous imaginez que ce n'était pas un travail très amusant, sous un soleil de plomb. Et comme toujours, les pauvres, on les voit d'un mauvais œil, ils risquent de se faire agresser à tout instant. Mais il se trouve, par hasard, si tant est que le hasard existe dans un monde gouverné par Dieu, par hasard, elle se met à glaner dans un champ qui appartient à un certain Boz. Boz est un homme d'un certain âge, il a l'âge des parents de Ruth, l'âge de Naomi à peu près. Et c'est un propriétaire de terre. Et il se trouve qu'on moissonne dans ses champs. Et quand Boz vient surveiller les travaux, il voit cette jeune femme, il se renseigne, qui sait, et on le dit, ça c'est Ruth la Moabite. Et comme il est de la famille de Naomi, il sait tout de suite qui c'est. Il a entendu parler de cette femme. Et il est impressionné par ce qu'elle a fait. Il se rend compte de sa démarche. Et il la traite avec beaucoup de bienveillance. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà, il va donner des instructions aux moissonneurs. Il leur dit de la laisser tranquille, de ne pas l'agresser, ce qui n'allait donc pas de soi. Il va leur dire de laisser un petit peu de matière à glaner. Et puis, il va aller voir Ruth et il va l'inviter à se servir de l'eau qu'on puise pour les moissonneurs, les moissonneuses. Et il va même l'autoriser à se reposer à l'ombre de la maison au moment de la plus grande chaleur. Bref, il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle puisse travailler de manière plus sereine et qu'elle puisse ramener un peu plus chez elle le soir. Et le soir, donc, quand Ruth rentre, après une journée de travail, il raconte ça à sa belle-mère. Et c'est Naomi qui comprend, en fait, que sa belle-fille a travaillé dans le champ de quelqu'un de la famille. Et qui plus est, quelqu'un peut agir à son égard comme rédempteur, ou comme on dit chez nous, comme Goël. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez, chez nous, la famille était beaucoup plus importante que chez vous. Et pour nous, il y avait deux grands malheurs qui pouvaient nous frapper. Et les deux malheurs étaient liés à la famille. Le premier grand malheur, c'était que la famille perde ses terres. Vous savez, lors de la conquête de Canaan, Dieu attribuait des terres aux différentes tribus. Et au sein de ces tribus, il y avait des clans. Les clans se sont répartis ces terres. Et au sein des clans, il y avait les familles, les grandes familles. Pas seulement père, mère et enfant, mais la grande famille. Et la grande famille, elle aussi, avait reçu des terres. Et il fallait à tout prix qu'elle les garde. Or, il arrivait que les gens s'appauvrissaient au point de devoir vendre leurs terres. Et ça, c'était une catastrophe si la famille perdait cette terre. Et c'est pour ça qu'on a institué un office qu'on appelle le Goël, ou si vous préférez, le Rédempteur. C'était quelqu'un de la famille, un homme en général, qui devait racheter la terre, de sorte qu'elle reste dans la famille. Et je vous ai dit, il y avait deux grands malheurs. Le deuxième grand malheur, c'était qu'une famille s'éteigne. C'est-à-dire qu'un homme meurt sans laisser de descendants mâles. Et là encore, on a, et ça c'est peut-être un peu plus surprenant pour vous, on a institué un goël, un rédempteur. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait épouser la femme du mort, lui faire un enfant. Et cet enfant n'était pas le sien, mais celui du mort. Et comme ça, la famille du mort continuait à travers cet enfant qui allait ensuite hériter de cette terre. Alors, si vous lisez la loi, vous verrez que ça, la loi ne le prescrit que pour les frères du défunt. Mais à mon époque, on avait élargi un petit peu à la famille. Donc quelqu'un de la famille pouvait faire cela. Et il se trouve que dans la situation qui nous intéresse, le Boaz pouvait faire ça pour Ruth. Et donc donner une descendance, non seulement à Elimelech, mais aussi à son fils Mahlon. Mais revenons maintenant au champ, parce que Ruth, elle continue à travailler, à glaner tous les jours, jusqu'à la fin de la moisson. Hélas, il n'y a pas de rédempteur qui frappe à la porte. Et c'est là que Naomi a l'idée de forcer un petit peu la main du destin. C'est à la grande fête de la fin de la moisson que Naomi demande à Ruth d'aller à la fête, toute pomponnée, parfumée, voilée quand même, donc pour pas qu'on la reconnaisse, et de bien regarder ce qui se passe, de bien regarder ce que fait Boaz. Et le moment venu, quand il se couche, de bien repérer où il se couche, et une fois qu'il dort, d'aller le voir, de découvrir ses pieds et de s'installer à ses pieds. C'est une démarche, on va dire, pas très habituelle. Et Ruth risque tout dans l'affaire. Elle risque de passer pour une femme légère qui cherche une aventure avec un homme riche, qui plus est sous l'emprise de l'alcool. Et surtout, mis à part le regard des autres, comment Boaz va-t-il réagir? Boaz est un homme pieux, religieux. Il se peut qu'il n'appréciera pas la démarche. Est-ce qu'il va chasser la jeune femme? Est-ce qu'il va la mépriser à tout jamais? Est-ce qu'il va crier au scandale? C'est possible. En tout cas, quand Boaz se réveille en frissonnant au milieu de la nuit, parce qu'il a été découvert, il se rend compte qu'il y a une femme qui dort à ses pieds. Et c'est une situation curieuse, pour ne pas dire compromettante pour lui. Mais au lieu de pousser des cris ou de repousser la jeune femme, il va lui demander qui c'est. Et c'est là qu'elle lui dit la chose suivante. Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton vêtement sur ta servante, car tu es mon rédempteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que Ruth est en train de faire là, mais pour nous, c'est vraiment culotté. Elle demande Boaz en mariage. Une femme demande un homme en mariage. Ça se fait pas. Une jeune femme demande à un homme d'un certain âge de l'épouser. Ça se fait pas. Une Moabite demande à un Israélite de l'épouser. Mais ça va pas. Ruth s'affranchit de toutes les conventions, de toutes les règles qui existent dans notre société et prend son courage par les deux mains et elle demande Boaz en mariage. Ça passe ou ça casse? Et c'est là où le miracle a lieu. Bose, il est estomaqué. Et on le serait pour moins que ça. Mais il n'est pas vraiment choqué, au contraire, parce que Bose vient de comprendre quelque chose. Il lui dit la chose suivante. Béni sois-tu, du Seigneur, ma fille. La bienveillance que tu viens de manifester est encore plus grande que celle du début, car tu n'es pas allé auprès de jeunes gens, pauvres ou riches. Voyez-vous, si vous voulez comprendre le livre de Ruth, c'est dans cette phrase que vous allez trouver de quoi il s'agit. D'abord, il faut que je m'arrête sur un mot que j'ai surligné ici. C'est un mot extrêmement important dans toute la Bible et sans doute le mot-clé de l'histoire de Ruth. C'est le mot que je traduis par bienveillance. Le mot dans ma langue, c'est le mot, il est un peu difficile à prononcer pour vous, c'est le mot chesed. Chesed. On le traduit en général par bienveillance, ou peut-être plus souvent encore par amour. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas bien à le traduire. C'est un truc à nous. Chesed, c'est une forme d'amour, de bienveillance, mais ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête uniquement, ou dans le cœur, voyez-vous. Chesed, c'est une bienveillance qui se retrousse les manches. C'est l'attitude de quelqu'un qui se rend compte d'une détresse autour de lui et qui se dit « Mais j'ai les moyens d'adoucir ça » et qui se met à l'œuvre. Chesed, c'est un amour qui se transforme en action, un amour qui met les mains dans le cambouis, un amour qui se mouille, c'est quelqu'un qui est prêt à répondre à la misère d'autrui, sachant que ça lui coûtera. Le chesed, ça coûte. Et j'ajouterai à ça que le chesed, c'est quelque chose qui se fiche de la réaction de l'objet qui en bénéficie. S'il rencontre de l'indifférence, tant pis. S'il rencontre de l'hostilité, tant pis. Ce qui importe au chesed, c'est d'apporter une réponse à cette misère qu'il a repérée. Et Bose dit à Ruth, le chesed que tu viens de manifester est encore plus grand que celui du début. Mais dites, quand est-ce que Ruth a manifesté du chesed à l'égard de Boaz? Je vais vous le dire, jamais. Elle n'était pas en mesure de le faire. Mais justement, et c'est là où il faut comprendre, si Ruth a pratiqué le chesed, ce n'était pas à l'égard de Boaz, mais à l'égard de Naomi. Et quand elle demande Boaz en mariage, ce n'est pas à son égard qu'elle montre un chesed, une bienveillance encore plus grande, mais à l'égard de Naomi. Voyez-vous, on présente parfois l'histoire de Ruth comme une histoire d'amour. Et si Hollywood devait en faire un film, je verrais bien Catherine Deneuve en Naomi, Scarlett Johansson comme Ruth, et comme Boaz, je verrais bien George Clooney. Et on assisterait au coup de foudre entre une belle jeune femme moissonneuse et un beau homme propriétaire de terrain, avec en bonus une scène torride dans la grange. Mais si l'histoire de Ruth est une histoire d'amour, ce n'est pas tant une histoire d'amour entre Ruth et Boaz, mais une histoire d'amour, de chesed, entre Ruth et Naomi. Et quand elle fait sa proposition de mariage très surprenante, Boaz, il comprend tout d'un coup cela. Il comprend ce que Ruth est en train de faire. Que celle qui avait déjà tant aidé Naomi va se sacrifier pour que Naomi puisse avoir une descendance. Elle aurait pu trouver un mari plus jeune que Boaz. Il le dit lui-même. Et peut-être davantage à son goût que ce vieux crouton. Mais elle choisit Boaz car en l'épousant lui, comme il est un rédempteur, elle peut donner un fils à Mahlon et assurer la continuité de la famille, donner une descendance à Naomi. Et Boaz, il comprend ça et il est impressionné par ce débordement de chesed. Et il se dit, oui, je veux participer à cette aventure, à cette entreprise de sauvetage. On fera ça ensemble, toi et moi, Ruth. Alors, il y a encore un obstacle à prendre, car il s'avère que Boaz n'est pas le parent le plus proche d'Elimelech. Il existe un autre parent, qui est donc un parent plus proche, et étant plus proche, il a en quelque sorte le droit de préemption. Alors, Boaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va au conseil municipal le lendemain, et il se trouve qu'il tombe aussi sur ce rédempteur plus proche. Il va le prendre, il va assembler un certain nombre d'anciens conseillers municipaux, et il va informer de manière officielle cet homme que le champ de Naomi est à vendre. Et l'autre dit, d'accord, je prends. Et là, Boaz dit, sache aussi que c'est un package. Hein? C'est-à-dire, le champ, il vient, mais avec Ruth. Et là, l'autre dit, si c'est comme ça, finalement, merci. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il est raciste? Il n'aime pas les Moabites? Pas sûr. Est-ce que Ruth ne lui plaît pas? Pas sûr. Non, la raison est sans doute très simple et économique. Il ne peut pas se le permettre. Pourquoi? Il faut bien voir que pour cet homme, pour ce rédempteur, il doit sortir de l'argent de la poche. Normal, il doit acheter le champ. Mais ça ne s'arrête pas là. Si c'était ça, et c'est ce qu'il avait vu dans un premier temps, ça pourrait être une bonne affaire. Mais ce n'est pas une bonne affaire. Parce que, je vous ai dit, il doit faire un enfant à Ruth. Et cet enfant ne sera pas considéré comme le sien, mais celui du mort, de l'ancien mari de Ruth. Et il devra, in fine, donner ce champ à cet enfant. Sans parler du fait qu'il doit s'occuper de Ruth et peut-être même de Naomi. Donc, c'est comme si on achète une maison, mais pour quelqu'un d'autre. C'est absolument pas une bonne affaire pour lui. Et visiblement, il ne peut pas se le permettre. Et donc, sans surprise, c'est Boaz qui devient le rédempteur de Naomi. Il épouse Ruth, elle tombe enceinte, et cet enfant, c'est-à-dire moi-même, votre serviteur, cet enfant, toute la ville le considère comme l'enfant de Naomi. Ruth a achevé la mission qu'elle s'était fixée. Son chesed a sauvé Naomi. Il lui a donné une postérité et une existence. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Si je comprends bien, vous êtes des gens du peuple de Dieu. Et en tant que tels, vous êtes invités, chacun de vous, à répondre un peu de chesed autour de vous. Et l'histoire de Ruth est là pour vous donner envie de le faire. Car voyez-vous, le chesed de Ruth a changé complètement la vie de Naomi. C'est lui qui a fait la différence. L'histoire nous montre aussi que ce chesed est contagieux. À elle seule, Ruth n'aurait pas pu accomplir le but qu'elle s'était fixé, mais son chesed a ému Boaz. Il a trouvé en quelque sorte un écho dans le cœur de Boaz et qui a fait en sorte que le chesed de Boaz, à son tour, réponde au chesed de Ruth, et cet effet de boule de neige provoque une avalanche d'amour qui va emporter les malheurs de Naomi. Voyez-vous, en pratiquant le chesed, vous devenez un peu plus semblable à Dieu lui-même, qui est la source de tout chesed. Dieu est amour, dit l'apôtre Jean, et étant juif, ce qu'il a pensé, c'est Dieu est chesed. Dieu est chesed. Dieu a vu votre misère et il s'est chargé d'y apporter une réponse. Ça lui a coûté. Et il a fait face à l'ingratitude, à l'hostilité même de ceux qui allaient bénéficier de son chesed. Mais ça n'a pas changé son projet pour autant. Oui, en pratiquant le chesed autour de vous, cette attitude qui s'intéresse à ce qui se passe autour, qui voit la misère et la souffrance qu'il peut y avoir, et qui se dit, je ferai ce que je peux pour adoucir ça, même si ça me coûte. Je ne me laisserai pas impressionner par la réaction de celui ou celle qui est aimé. En pratiquant ce chesed autour de vous, vous ressemblerez un peu plus à celui qui a bien voulu exercer son chesed à votre égard en faisant de vous ses enfants. Et voyez-vous, comme Dieu est chesed, il se plaît à amplifier le chesed des siens. Si vous regardez l'histoire de Ruth, vous verrez que le chesed de Ruth à l'égard de Naomi a eu pour effet, dans un premier temps, de me mettre au monde, moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Moi-même, j'ai eu un fils, Kishai. Il se trouve que mon fils a eu plusieurs fils. Et le plus jeune d'entre eux, vous le connaissez, je crois, il s'appelle David. David était un grand homme, à bien des égards. Il a changé la face d'Israël. Mais surtout, il a eu un descendant, le fils de David, un descendant lointain, qui a changé la face du monde tout entier. Et cet homme, le Seigneur Jésus, le Messie, est l'incarnation du chesed par excellence. C'est le chesed devenu chair. Ruth, elle ne pouvait pas savoir ça, ni même l'espérer. Mais son chesed a fait des petits, voyez-vous. Et il se trouve, sans le savoir, être l'ancêtre, l'une des ancêtres du Messie d'Israël et du monde. Dieu amplifie le chesed des siens. Je voudrais donc vous encourager à vivre, vous aussi, le chesed, en vous laissant inspirer de l'histoire de Ruth. Cette semaine qui s'ouvre devant vous, soyez attentifs aux gens autour de vous. Soyez attentifs à la misère de ces hommes et des femmes que vous allez croiser. Et si l'occasion se présente, ne vous économisez pas, mais déployez votre chesed et laissez Dieu faire le reste. Il est temps pour moi de vous laisser. Shalom, Chaverim. Et que le chesed déborde dans vos vies aussi. Amen.